Il est 17h et c'est l'heure de notre émission Bio Hello, sur la biographie des grands maîtres d'échecs. Aujourd'hui, c'est Ciré qui va nous parler d'un certain Capablanca. C'est à toi, Ciré.
Bonjour les amis. Je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous raconter la biographie d'un grand champion d'échecs à la légende fascinante. José Raúl Capablanca, grand joueur et champion d'échecs, est né le 19 novembre 1888 à La Havane, Cuba, est mort le 8 mars 1942 à Harlem, New York. Les premiers pas de Capablanca aux échecs font l'objet d'une légende fascinante, mais controversée car peu crédible. Le père de José Raúl Capablanca était amateur d'échecs, membre du club de la Havane. Il y amenait souvent son fils qu'il plaçait sur ses genoux pendant qu'il jouait. Le petit José Raúl restait là, sagement, à observer l'évolution des pièces jusqu'au jour où, là, les versions diffèrent. Selon les uns, l'enfant, alors âgé de 4 ans, aurait demandé à son père de jouer, n'étant pas censé avoir appris les règles du jeu. Il les aurait devinés par analogie en rattachant chaque forme de pièce à la marche géométrique qu'il observait. Pour la première partie de sa vie, il aurait donc battu son père. Dans l'autre version, le petit Capablanca aurait joué sa première partie contre un fort amateur du club, lequel lui rendait la dame. Capablanca eut, dès sa plus petite enfance, un style de vieux routier cherchant la simplicité dans les échanges de pièces et aimant la pureté dépouillée des fins de partie. Il garda le même style tout au long de sa carrière. Théoriquement plus expérimenté, Morphy, autre enfant prodige, faisait exploser l'échiquier par ses combinaisons brillantes, et les joueurs du monde entier pouvaient apprécier directement son génie. Capablanca, sans jouer au concours extraordinaire et sans que son adversaire ne commette apparemment d'erreur, la partie prenait imperceptiblement un tour avantageux pour lui. Cette méthode était naturelle. Son style ne subit aucune évolution avec le temps. Il était facile pour Capablanca. Rien ne lui résistait. Pas plus ses adversaires que les femmes qu'il courtisait. une éducation raffinée alliée à un physique en fut le plus grand playboy parmi les joueurs d'échecs. Après avoir terminé ses études secondaires, le jeune Capablanca fut envoyé aux États-Unis où il rentra à l'Université de Columbia pour y poursuivre ses études de chimie. Il eut du mal à trouver le temps pour étudier sérieusement la chimie. Il passa 2 ans avant de mettre fin à cette situation et se consacrer exclusivement aux échecs. Pour son baptême de feu dans le concert international, à San Sebastián, en Espagne, Capablanca provoque une sensation semblable à celle de Pittsburgh, remportant encore inconnu le tournoi de Hastings 1895. De retour en Amérique, Capablanca commença un tour des États-Unis consistant en exhibitions diverses, simultanées ordinaires ou à l'aveugle, parties plus rapides, affrontements de plusieurs joueurs en consultation ou plus simplement des tournois au fort premier prix. Eut la chance, 2 ans plus tard, de recevoir une aide considérable de son gouvernement. Il fut nommé à un poste au ministère des Affaires étrangères de Cuba. Ses obligations réelles étaient inexistantes. Les autorités cubaines trouvant suffisante la publicité que Capablanca faisait pour son pays par ses victoires échiquières. La fascination qu'exerçait Capablanca était augmentée par son attitude pendant les parties. Toujours extrêmement bien habillé, souriant, il ne semblait pas le moins du monde absorbé par la partie en cours. Capablanca devint champion du monde en 1921 contre Lasker et se mit en devoir de repousser tous les assauts de ses concurrents et évita de mettre son titre en jeu. Néanmoins, l'invincibilité allait avoir une curieuse influence sur ses considérations envers les échecs. Il eut bientôt l'impression que l'on ne pourrait jamais le battre s'il ne commettait pas d'erreurs grossières. Ce qui veut dire, d'après lui, une partie bien jouée de part et d'autre doit se terminer par un nul. Or, puisque le niveau des joueurs augmente sans cesse, la qualité des parties est toujours meilleure et le nombre de nuls augmente. Capablanca prévoyait la fin proche des échecs à cause de l'impossibilité pour 2 joueurs très forts de se départager. En conséquence, il proposa de complexifier le jeu en modifiant les règles. Sa première idée fut d'intervertir les fous et les cavaliers dans leur position initiale. Il proposa même d'agrandir l'échiquier à la taille du damier, 10 sur 10, et de rajouter 2 nouvelles pièces dans chaque camp, l'une combinant la marche de la tour et du cavalier, et l'autre celle du fou et du cavalier. Le public échiquier fut hostile à un tel projet. Mais les critiques les plus sévères vinrent des collègues de Capablanca. Le joueur le plus choqué fut certainement Alekhine. Malgré tout, Capablanca continua de participer aux grands tournois internationaux. Son plus grand échec, il l'obtint en 1927 à New York face à Alekhine, qui n'accorda jamais de revanche aux Cubains. Les deux hommes ne s'adressèrent plus la parole lors des rencontres fortuites ou inévitables. Les dérobades continuelles du champion en titre n'empêchèrent pas Capablanca de poursuivre sa double carrière de professionnel d'échecs et d'ambassadeur de Cuba. Le dernier grand exploit de Capablanca eut lieu lors des Olympiades de Buenos Aires en 1939. À partir de cette compétition, il se retira de la scène internationale sur les conseils de ses médecins. Il souffrait d'hypertension artérielle. Il se retira alors dans sa résidence new-yorkaise. Il eut une attaque le 7 mars 1942, alors qu'il regardait une partie au Manhattan Chess Club. Il mourut le lendemain matin. Je vous remercie pour ce moment merveilleux. À très bientôt.
Merci Ciré. Et donc, à partir de maintenant, vous allez pouvoir écouter de la musique en continu jusqu'à 22h ce soir. À bientôt.